Bonjour chers auditeurs de Radio Silence, voici l'actualité religieuse de cette semaine d'été. Liechtenstein, Berlin, Montfermeil, France et Irlande. Liechtenstein. Excellente nouvelle venant de Liechtenstein, ce minuscule pays situé entre la Suisse et l'Autriche. Juste pour rappel, 160 km² seulement, 53 000 habitants seulement, monarchie parlementaire, parlement de 25 membres, un cabinet de 5 ministres. Le prince héritier et régent actuel, Alois du Liechtenstein, a déclaré lors de la fête nationale du 15 août 2011 qu'il s'opposera à tout vote en faveur de l'avortement, y compris et en tout premier lieu des bébés à naître éventuellement diagnostiqués comme handicapés. Il a ajouté ceci, jusqu'à présent, ce n'est pas l'habitude de notre pays de mépriser les handicapés. Cette déclaration vient sur fond de divers mouvements pour introduire l'avortement au Liechtenstein. En septembre, un référendum est prévu à ce sujet. Dès que le prince oppose son veto, aucune loi entrera en vigueur, votée ou non par le Parlement. Cette déclaration n'est pas une surprise. La maison princière du Liechtenstein, notamment sous la signature de la princesse royale Sophie de Bavière, qui est l'épouse d'Alois du Liechtenstein, mais aussi héritière et première prétendante du trône des Stuarts et des Jacobites, avait établi dès 2006 un bureau d'aide aux femmes et jeunes filles enceintes en détresse. Lors de cette fondation, elle avait déclaré, traduction unique, je cite, « Aucune femme ne doit se sentir obligée à l'interruption de sa grossesse pour des raisons d'encadrement. Toutes celles qui sont enceintes, qui viennent vers nous, seront soutenues par nous, si nécessaire même pour un temps prolongé. Toute femme peut être convaincue que nous ne la laisserons pas seule en cette situation difficile. Nous offrons un service étendu et voulons ainsi contribuer à ce que les femmes, même sous des conditions de vie difficiles, puissent dire oui à la vie pas encore née. » Fin de citation. Elle avait ajouté que si besoin, elle puiserait dans les caisses de la principauté qui est connue pour ses richesses. On comprend donc parfaitement les nouvelles déclarations du prince Alois de Liechtenstein. Là où il y a un homme debout, il y a généralement à côté de lui une femme debout. À la même occasion, le prince s'est plaint de l'annulation de la messe en plein air, qui fut habituellement célébrée sur la place du château du Liechtenstein lors de la fête nationale. Cette messe avait été annulée sur ordre de l'archevêque du lieu, qui considère qu'une telle messe ne serait plus de mise après le Concile Vatican II qui a voulu séparer l'Église et l'État. Pourtant, les habitants de Liechtenstein sont à 76% catholiques. Nous voudrions ajouter de notre côté que ces messeigneurs ne devraient pas s'étonner que depuis cette malheureuse séparation de l'Église et de l'État prônée par Vatican II, ça va mal dans le monde. Apostasie, avortement, promiscuité, sida, drogue, homosexualité, gender, montée de l'islam, tout y va sans aucune opposition effective de l'Église cantonnée dans ses bâtiments. Qui nous épargne donc leurs larmes de crocodile sur des méfaits causés par leurs propres décisions fatales. En tout cas, bravo au prince et à la princesse du Liechtenstein, que Dieu les garde. Berlin. Étonnante nouvelle venant de Berlin. Le nouvel archevêque, nommé le 2 juillet 2011 par Benoît XVI, Mgr Rainer Maria Wölki, a prêté serment le 16 août à la mairie de Berlin devant le maire Klaus Wowereit. Quel serment? Eh bien celui prescrit par l'article 16 du Concordat entre le Reich et le Vatican, signé à Rome le 20 juillet 1933, et toujours valide suivant le droit international. Traduction unique, je cite. « Devant Dieu et sur les saints évangiles, je jure et promets, comme cela convient à un évêque, d'être fidèle au Reich et pays allemand. » Enfin, le mot Reich a été omis dans la déclaration de cette semaine. Je jure et promets de respecter le gouvernement établi conformément à la Constitution et de le faire respecter par mes clercs. Dans le souci obligatoire pour le bien et l'intérêt de l'État allemand, je m'efforcerai d'éviter dans l'exercice de la charge spirituelle qui m'est conférée tout dommage qui pourrait menacer l'État. Fin de citation. Ce vœu, institué par le Concordat 1933, implique en fait le retrait pur et simple de l'Église et de ses corporations de la vie politique, comme cela a d'ailleurs été expressément spécifié par plusieurs autres articles du traité. Nous y sommes encore aujourd'hui. L'État allemand, serait-ce pour ses barbarismes nazis de l'époque, ou alors pour le génocide criminel actuel par l'avortement d'aujourd'hui, jouit imperturbablement du respect et de l'obéissance des hiérarques de l'Église catholique. L'Évangile a beau prêcher « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », non, en Allemagne, l'Église donne tout à l'État, même ce qui est dû à Dieu, comme par exemple le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le cardinal Mincenti, du fond de sa prison à Budapest, n'avait-il pas parlé peu d'années plus tard de l'épiscopat hongrois devenu, je cite, « la prostituée de l'État » Un vrai concordat stipulerait en premier lieu que l'État se conforme aux lois et droits de Dieu, tels qu'ils se trouvent dans les 10 commandements ou au moins dans la loi naturelle. Ensuite seulement l'Église peut jurer fidélité à cet État. Ne faire que la deuxième partie constitue une trahison à sa mission reçue de Dieu, omnia restaurare in Christo, tout restauré dans le Christ. Montfermeil. Et voilà une nouvelle franchement décapante, éclatante de foi catholique et de bon sens. Elle vient de Montfermeil, une commune de la banlieue parisienne. En mai 2011, le maire actuel, M. Xavier Lemoine, 50 ans, digne successeur du vaillant maire Michel Bernard, qui avait arraché cette commune aux communistes, a donné une interview à la revue Famille Chrétienne, dont nous nous permettons de citer quelques extraits. Je cite. L'immigration, il n'y a qu'une seule solution à appliquer, et elle est très urgente, l'évangélisation des musulmans. Et plus loin, aujourd'hui, Montfermeil compte 40 nationalités différentes. Ma ville est l'image même de la Seine-Saint-Denis, un département de 1,5 million d'habitants dont le premier tiers est constitué d'étrangers ayant une carte séjour, le second de Français sans aucune ascendance française, application du droit du sol et naturalisation, le dernier de Français ayant des ascendances françaises, mais qui vieillissent et qui déménagent. Par ailleurs, les deux premiers tiers ont un taux de natalité 2 fois supérieur au dernier. Et plus loin, il dit, « Aujourd'hui, nous sommes face à un défi physique et métaphysique. Au départ, il y a une apostasie de la France vis-à-vis de sa vocation. France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, ce n'est pas pour rien. Que cette vocation nous plaise ou non, elle nous a été donnée, la France l'a oubliée, mais elle reste. » Plus loin, il déclare, « De cette apostasie est née une amnésie culturelle et historique. Au mieux, c'est la méconnaissance de notre propre histoire. » Et au pire, c'est l'esprit de repentance perpétuelle, d'excuse de ce qui fut notre histoire et de mépris de notre culture, comme si rien de beau n'avait été fait dans notre pays. Quant à l'immigration, le maire déclare, je cite encore, « Deux possibilités se présentent. Soit la démographie fera inexorablement, par le jeu normal de la démocratie, basculer la France dans une voie qui n'est en rien conforme à son histoire, à sa culture, à son âme. Aujourd'hui, tous les ingrédients sont en place pour ce scénario. Soit on considère que c'est le temps pour les musulmans en France de découvrir la personne de Jésus-Christ, fils du Père, vrai Dieu et vrai homme. Auquel cas, les choses peuvent tourner d'une toute autre manière. Et c'est déjà ce qu'annonçait le père Charles de Foucault dans sa lettre à René Bazin. Plus loin, le maire déclare « Par ailleurs, cette lettre donne une exigence extrêmement forte, car elle rappelle la France à sa vocation d'éducatrice des peuples. Si je me réfère à elle, je dirais que tout le travail de maire que j'ai fait, être présent, actif, au service, était nécessaire, oui, mais que je ne puis en aucun cas me considérer comme quitte, car il y a un cran à franchir, l'évangélisation. Une révision déchirante est à faire sur la qualité de l'accueil que nous réservons aux personnes issues de l'islam. Nous serons jugés là-dessus. Les musulmans ont besoin d'avoir en face d'eux de vrais priants, des adorateurs. Il faut aussi que les chrétiens sachent que les musulmans sont des personnes exigeantes sur la pudeur et le respect de la vie. Nous devons donc être à la hauteur. » Plus loin, il déclare « En conclusion, n'espérez pas échapper à cette mise en présence avec les musulmans. Diffuser Jésus-Christ est la feuille de route habituelle du chrétien, où qu'il soit. Mais au regard des enjeux et des confrontations qui se préparent, il y a aujourd'hui une urgence particulière. Nous avons une responsabilité historique comme chrétiens vis-à-vis de nos frères et sœurs éduqués dans l'islam. Ne la fuyons pas. » Fin de citation du maire de Montfermeil. Ajoutons que le seul mouvement politique en France qui inscrit l'évangélisation des musulmans comme un des objectifs essentiels sur son programme est Amen, arrêtons le massacre des enfants à naître, fondé à Paris en 2008. Vous pouvez y adhérer en versant la cotisation annuelle de 25 euros à Amen, boîte postale 70114, 95210 Saint-Gratien, téléphone fax répondeur 01 34 12 02 68, courriel amen-net@orange.fr et le site internet www.amen.net.org. Irlande. En complément à notre dernière émission, nous annonçons qu'une belle vidéo de 12 minutes sur le pèlerinage de l'UNEC en Irlande en été 2011 est visible sur un site qui vous est indiqué sur le résumé de cette émission sur la page d'accueil des actualités religieuses. Au revoir, chers auditeurs, à la semaine prochaine. Passez encore une bonne semaine de vacances.